Un an après le succès du Malheur, la metteuse en scène Mireille Guerre revient avec L'Homme de son lit, une nouvelle version de l'Agamemnon d'Eschyle, une création qui a lieu du 19 au 29 mars sur la scène du Théâtre des Bernardines. Et seulement 3 semaines auront suffi pour mettre en place cette deuxième version, et contrairement à l'année dernière, Mireille Guerre a cette fois-ci lu la tragédie grecque avant de la réadapter, un processus de travail peu commun dévoilé lors de la conférence de presse donnée pour l'occasion.
Quand le texte m'est apparu, j'ai envie de dire dans son histoire, c'est-à-dire dans la force de ce qu'il raconte, je me suis quand même dit qu'à certains moments j'étais passée à côté. Et que donc je ne voulais pas passer à côté et je voulais essayer de recreuser l'écoute que je pouvais avoir de ce texte. Et sans me perdre dans des dramaturgies, ben c'est pas comme ça que je travaille, mais toujours en accompagnant un petit peu la compréhension qu'ont les acteurs, la façon de le porter. Et puis moi, j'opère des maillages, des mariages même, entre l'un et l'autre, pour voir comment tous ces mots s'épousent les uns par rapport aux autres. Et puis là, avec surtout le nouvel Agamemnon, il fallait que je parte ailleurs. Donc je suis repartie sur une autre création. Mais le pourquoi, il est venu presque dans l'expérience de la reprise, en fait. C'est-à-dire que j'ai compris. Et c'est toujours les acteurs qui donnent le pourquoi. C'est rarement le metteur en scène. Enfin, je trouve que c'est fabriqué si c'est le metteur en scène. L'année dernière, j'étais dans quelque chose de très ludique, très bande dessinée. Je pense que cette année, je suis redevenue un peu plus sérieuse par rapport à la tragédie. Voilà, là, déjà, j'essaie de voir, il me reste 5 jours, comment le sérieux, je peux le mettre un peu en brèche. J'ai du mal, hein, je l'avoue. Mais je suis devenue beaucoup plus sérieuse que l'année dernière parce que je suis allée directement sur les mots. Et l'espace, alors contrairement à l'année dernière, là il n'y avait pas de structure d'espace. J'avais 4 éléments de décor qui me restaient de l'année dernière et l'espace s'est créé avec les mots cette année. C'est-à-dire que je n'avais aucun a priori scénique. Mais la différence, elle va jouer à des endroits, je pense, très très inattendus. Et le public change. Le public fait bouger un spectacle terriblement. Terriblement. Parce qu'ils sont en roue libre, hein. Ils ont énormément de repères. Mais en même temps, à l'intérieur du jeu, ils sont terriblement en roue libre. J'ai fait une petite adaptation où j'ai enlevé toutes les références. Déjà les références que je ne connaissais pas, c'était déjà un bon baromètre. C'est-à-dire tout ce que je ne comprenais pas, je l'ai relevé. Et puis ce que je comprenais, mais en me disant que c'était trop référentiel à une époque, on l'a détourné. Légèrement. On est quand même très très fidèle au texte globalement, parce que déjà la traduction a fait ce travail-là. C'est-à-dire que le Pierre Judet de Lacombe a traduit Eschyle de façon très moderne, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire avec beaucoup de mots, d'argotique, de choses. Il est allé vraiment, pas dans le parler quotidien, moi j'essaie d'y aller un peu plus, mais il a déjà cherché ça, mais il y a quand même une scansion qui pourrait très vite nous embarquer dans la déclamation. Donc c'est le plus gros du travail, ça a été ça. Ça a été d'éviter la déclamation. Ça, je le fais par rapport aux jeunes. Je pense que ça me préoccupe beaucoup comment les jeunes générations peuvent percevoir ce genre de texte. C'est-à-dire que pourquoi on ne parle pas, pourquoi on ne donne pas ces mots très simplement, quoi. Bon, il y a le théâtre. Le théâtre falsifie, on ferait ça au cinéma, on parlerait autrement, bien évidemment, beaucoup plus facilement. Le théâtre nous oblige à porter la voix. Et le fait même de porter la voix met une aura qui est complexe et qu'il faut arriver à driver. Et du coup, je les ai fait au début travailler très bas, très très bas, très très bas. Et maintenant, je fais monter parce que je suis allée en haut des gradins, effectivement, je n'entends pas. Donc maintenant, je fais monter. Mais il y a quand même cette qualité. C'est-à-dire qu'ils ont compris cette qualité d'inflexion vocale et comment on rentre dans les mots. J'ai pas fini ce travail, je l'aurais pas fini le 19. Dans ce bout à bout, m'a manqué le meurtre. C'est un peu paradoxal parce que c'est l'essentiel de la pièce. Donc on peut dire qu'il y a un manque à gagner considérable. Et ce meurtre, je l'avais pas. Enfin, on l'avait dans les mots, l'énoncé, bien évidemment. Mais la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'il va tendre, ce qu'il propose, parce que c'est déjà intéressant, pour que le meurtre devienne incontournable. Il est là. Et c'est d'un meurtre dont on parle depuis le début. Je travaille jusqu'au bout en me disant que peut-être, c'est une énigme policière pour moi, que peut-être il n'y a pas meurtre. C'est-à-dire que moi, c'est pas évident. Je pars pas du constat qui dit... C'est comme quand j'ai monté Médée. Je me disais, Médée, elle n'a pas tué ses enfants. Et je vais travailler comme si elle n'avait pas tué ses enfants. Et après, c'est une décision. Alors Médée, je ne lui ai pas fait tuer les enfants à la fin. J'ai gardé ça jusqu'à la fin. Je pense que Clytemnestre, là où on va arriver le 19 et même un peu après, parce que comme j'ai eu peu de temps pour le faire, 3 semaines c'est pas beaucoup sur un texte comme ça de travail, je pense qu'on va pas mal travailler, et puis le public va nous renvoyer, le plateau. Donc là, ça sera intéressant dans les 4 premiers jours de le retravailler. Mais là, je pense que c'est inévitable. Clytemnestre tue Agamemnon et Cassandre. Voilà. Parce que Clytemnestre m'a fait, on l'a pris en improvisation, et on va le travailler cet après-midi, un meurtre magnifique, que peut-être je vais en rester là. Vous voyez, même la scène finale n'est pas encore construite. Je pense que les Grecs avaient de tels codes pour jouer que l'espace n'était pas donné. C'est-à-dire qu'on ne savait pas, on ne sait jamais s'il fait nuit, s'il fait jour. Enfin là, je suis un peu bétassonne sur ma façon de donner en temps dans l'espace. Mais l'espace, c'est l'énorme travail. C'est-à-dire que comment ne pas enfiler des perles? Parce que tout est à touche-touche, parce qu'eux, ils savaient parfaitement. Ils savaient parfaitement, ils pouvaient presque le dire avec les autres, hein, on peut dire ça. Ils connaissaient parfaitement ces pièces. Et là, c'est la grande difficulté, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ce messager qui vient, alors qu'il n'y a pas de background, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans l'écriture. Et ça, c'est la difficulté de ce texte, qui est très, très, très resserré sur l'histoire, sur les mots. C'est un récit, quoi. C'est globalement un récit, quand même. Et voilà. Donc la grande question que j'ai cette année, c'est ça, c'est la question sur l'action, parce qu'on ne peut pas mettre les pieds au mur non plus. Et donc, qu'est-ce que c'est la qualité? Qu'est-ce que c'est On ne peut pas faire une guerre. D'abord, je n'ai pas le nombre d'acteurs qu'il faut. C'est-à-dire que tout ce que ça raconte, ça raconte des faits, mais pas une action.
L'homme de son lit, dernière création de Mireille Guerre avec Pascal Bongiovanni, Argiro Chiocci, Hélène Force, Alain Fourneau, Jocelyne Monnier et Philippe Vincent, à découvrir sur la scène du Théâtre des Bernardines du 19 au 29 mars 2013. Informations et réservations au 04 91 24 30 40 ou sur théâtre-bernardines.org.